Vous vous souvenez que dans une première leçon, on avait une introduction générale. Dans une deuxième leçon, on avait vu la parabole initiale et déterminante du semeur et son explication. Dans une troisième leçon, on avait complété cette vision du chapitre 13 de Matthieu, où il a manifestement regroupé des paraboles avec un certain nombre qui lui sont propres. Et puis la fois passée, c'était notre quatrième leçon, nous avons parcouru, et je vais y revenir une dizaine de minutes, quatre paraboles. Nous avons d'abord vu précisément la parabole de la moisson qui mûrit, qui était une parabole propre à Marc. Donc le semeur veille ou dorme, la semence grandit. Et puis une deuxième que nous avons vue, c'est une image déployée, à savoir celle de la maison bâtie sur le roc, en contraste avec la maison bâtie sur le sable, pour illustrer le fait que pour entrer dans le royaume, il faut faire la volonté de Jésus et en cela ressembler à un homme qui bâtit sur le roc. Puis une troisième que nous avons vue, c'est les enfants boudeurs, c'est-à-dire l'image des enfants qui sur les places s'interpellent et à leur interpellation on ne répond pas. Et cela, c'était pour illustrer le fait que aussi bien la prédication du baptiste que de Jésus, certains sont réticents. Et enfin, une quatrième que nous avons parcourue, c'était la parabole des deux fils, qui est une parabole propre à Matthieu. Et les deux fils, c'est celui qui, au moment où le père dit « Mon enfant, veux-tu aller travailler à la vigne ?» L'un dit oui et fait non, et l'autre l'inverse. Je reviens un instant sur les quatre. Dans la parabole de la moisson qui mûrit, ou bien du grain qui lève tout seul, comme on dit parfois, voilà, eh bien, il y avait intérêt à voir un petit peu le contexte propre. C'est une brève parabole qui n'a que 5 versets, mais par exemple, il était dit que le grain était semé sur la terre. Et ça reprenait la situation de la foule qui est en train d'entendre Jésus en étant non pas sur le rivage, comme dit Matthieu, mais sur la terre, comme dit saint Marc. Et on voyait qu'il y avait sans doute là une intention d'insistance de Marc au fait que dans la parabole qui suit, du grain de moutarde précisément, il reprend deux fois l'expression sur la terre et il est le seul à la reprendre à cet endroit-là. Ou bien un autre trait, qu'il dorme ou qu'il veille, le grain lève. Juste avant, pratiquement, en Saint-Marc, on a vu Jésus dans la barque dormir sur le coussin et être réveillé par ses disciples. Et donc, lorsqu'il est dit un homme qui jette la semence dans la terre, on comprend que c'est Jésus qui jette la bonne parole et on a une illustration un peu avant, de sa propre confiance, qu'il dorme dans la tempête ou qu'il veille, eh bien, il sait que la parole qu'il a semée va grandir. Le premier à faire cette confiance que la parole grandit, c'est Jésus. Voilà deux petits traits de la parabole, mais qui, rapportés à des éléments de contexte, voilà, donnent une lumière nouvelle. C'était le but de reprendre cette parabole de Marc, en même temps pour compléter, si vous voulez, la série dans le registre des semeurs. Deuxième parabole que nous avons approchée, ou image déployée, ce sont les deux maisons. Et vous vous souvenez que ça intervient aussi bien chez Matthieu que chez Luc à la fin de discours importants. Chez Matthieu, c'est le chapitre, le discours sur la montagne, et chez Luc, c'est le discours dit dans la plaine, qui est plus bref que chez Matthieu, mais enfin, les deux, je dirais, généralement sont comparés, même s'il y a de grandes différences. Mais ils se terminent tous les deux sur cette image pour insister sur le fait qu'il s'agit de faire ce qu'on vient d'entendre. Jésus vient de parler longuement, et maintenant, il invite à mettre en pratique. Et chez Matthieu, ça s'est terminé sur la formule « faire la volonté du Père » dans cette finale, à la preuve de cette finale du chapitre 7 de Saint Matthieu. C'est ainsi que Jésus l'introduisait, en 7:24. Pardon, 21. Ce n'est pas celui qui me dit Seigneur, Seigneur qui entrera vers le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et comment connaissons-nous cette volonté du Père qui est dans les cieux? C'est tout le discours précédent, les paroles de Jésus. Et donc Jésus peut enchaîner, donc quiconque entend ces paroles-ci, les miennes, et les fait, autrement dit, faire les paroles de Jésus, c'est identiquement faire la volonté du Père que vous révèle ces paroles. Avec une insistance, ça revient encore au verset 26, tout qui entend ces paroles-ci, les miennes, et ne les fait pas, en contraste. Il ressemble à un homme qui a bâti sa maison sur le sable. Donc, il s'agit vraiment de faire. La parabole du semeur insistait sur entendre et comprendre. C'était la première étape. Comprendre en ayant, vous vous souvenez, les oreilles, les yeux et surtout le cœur ouverts. Entendre et comprendre. Et à tel point que ce verbe comprendre, si vous voulez, revenait dans ce chapitre 13 de Matthieu plusieurs fois. Je vous les rappelle brièvement pour que petit à petit nous mesurions des leitmotifs importants et qui parfois sont typiques de tel évangéliste. C'était au chapitre 13, de verset 13. En raison de ceci, je leur parle en parabole, parce que regardant, ils ne regardent pas, entendant, ils n'entendent, ni ne comprennent. Et puis on avait la citation d'Isaïe, qui est propre à Matthieu, et l'on comprend, c'est le cas de le dire, que ce vocabulaire de comprendre vient d'Isaïe lui-même. D'entendement, vous entendrez, ne comprendrez pas. Comprendrez pas. Et à la fin, de peur que leur cœur ne comprenne et qu'ils se convertissent. Mais je les rétablirai. Donc chez Matthieu, chez Isaïe lui-même, on a ce vocabulaire du comprendre. Alors, Matthieu le reprend encore au moment où il explique la parabole du semeur. Entendez la parabole de celui qui sème. À tout qui entend la parole du royaume et ne la comprend pas, vient le méchant, il ravit ce qui était semé dans son cœur. Ça, c'est le début de l'explication. Et puis, la finale, comme en inclusion de l'explication, reprend ce terme. Or, ce qui fut semé sur la belle terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Et celui-là porte du fruit. Et à la fin du chapitre, vous en souvenez, Jésus posera la question dans ces termes-là à ses disciples, avez-vous compris tout cela? Voilà pour ce qui est de cette insistance sur le binôme entre entendre et comprendre. Mais il y a un autre binôme qui est entendre et comprendre et faire. C'est celui que je viens de pointer dans cette finale centrée sur l'image des deux maisons. Et faire la volonté du Père. Alors, chez Matthieu, de nouveau, c'est une expression importante. Pour que vous voyez qu'une expression qui intervient dans un passage imagé ou parabolique résonne ailleurs aussi dans l'Évangile. Faire la volonté du Père. Parce qu'on va la retrouver dans cette parabole propre à Matthieu des deux fils, celui qui dit oui et fait non, l'inverse, Jésus pose la question, très exactement, qui a fait la volonté du Père? C'est ça l'enjeu, faire la volonté du Père. Faire la volonté du Père, alors cette expression, la volonté du Père, de nouveau, est assez pratiquement typique de Matthieu. J'en reparcours les occurrences. La toute première, significativement, c'est dans l'enseignement du Notre Père. Et le Notre Père, chez Saint-Luc, n'a pas cette demande-là. Que ta Père, que ta volonté soit faite, c'est en Matthieu 6:10. C'est la première occurrence. Elle intervient, pas dans n'importe quel passage, dans l'enseignement de la prière de Jésus. Matthieu 6:10. Puis la deuxième occurrence, c'est Matthieu 7:21. Je viens de la rappeler. Il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur, mais il faut faire la volonté de mon Père. Et puis, l'occurrence suivante, on la trouve en Matthieu 12:50. qui est ma mère et qui sont mes frères ? Et étendant sa main vers ses disciples, voici ma mère et mes frères, car quiconque fera la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Matthieu 12, 5. En Matthieu 18, 14, donc je suis en train de parcourir les six occurrences de cette expression, la volonté du Père, mais il nous faut entrer dans à la cohérence d'un accent propre à Matthieu. En 18, 14, ceci, c'est à la fin d'une parabole que nous allons voir aujourd'hui, la parabole de la brebis égarée et retrouvée. On verra dans quel contexte elle intervient. Toujours est-il que chez Matthieu, elle se termine par l'expression. Non, non. Pour ce qui est le propos de Jésus, elle se termine par l'expression suivante. Ainsi, il n'est pas de volonté devant votre Père qui est dans les cieux que se perde un seul de ces petits-ci, littéralement. Autrement dit, la volonté de mon Père qui est aux cieux, c'est que ne se perde aucun de ces petits-ci. Faire la volonté du Père, c'est aider Jésus, adhérer à cette intention de Jésus, que ne se perde aucun de ces petits-ci. Puis il y a l'occurrence qu'on trouve en 21-31, c'est celle que j'ai rappelée, à l'instant, lequel des deux fils a fait la volonté du Père. Et enfin, en 26-42, c'est la dernière occurrence qui a un écho direct à la première, puisque la première c'était dans l'enseignement de notre Père, « Père, que ta volonté soit faite », là c'est à l'agonie, et c'est Jésus qui le dit. De nouveau, une deuxième fois, s'éloignant, il pria, « Mon Père, si ceci ne peut passer, si je ne le vois pas, qu'arrive ta volonté ?» C'est exactement dans les termes de l'enseignement du Notre Père. Et là, c'est Jésus qui le dit à l'agonie. Donc, tout ceci pour faire voir cette expression qu'on trouve au début de l'image des deux maisons. Il ne s'agit pas simplement de dire « Seigneur, Seigneur », mais de faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En parcourant les occurrences, on voit la consistance de cette expression. En même temps, si vous voulez, cette image des deux maisons nous invitait à faire un choix, à poser une option. Et c'est ce qu'on voit aussi dans les deux paraboles littéraires que nous avons vues, les enfants boudeurs et la parabole des deux fils. Faire un choix, vous savez que c'est le thème du premier psaume du psautier. Heureux l'homme qui ne va pas au conseil des méchants, etc. Mais au contraire se plaît dans la loi du Seigneur. Et d'ailleurs, il est significatif que ce choix, dans le premier psaume, est déjà assorti ou appuyé sur une belle image. Celui qui fait le choix de suivre la loi du Seigneur, il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, florissant, qui donne son fruit en son temps, enfin c'est déployé. Tandis que celui qui ne fait pas, l'injuste, l'impie, il est comme la balle qu'emporte le vent. Type de fait nouveau voir, c'est dit en trois mots. Donc, une belle image pour dire ce qu'on appelle parfois la perspective des deux voies. La voie de celui qui suit la volonté, la voie du Seigneur, et la voie de l'impie. Ceci pour dire que cette thématique d'une perspective d'un choix entre deux voies, une qui donne la vie, une qui mène à la mort, est bibliquement importante. Et ce psaume 1 fait lui-même écho à ce thème à la fin du livre du Deutéronome. Mais toujours est-il que cette perspective du choix articule justement cette histoire des enfants boudeurs. Vous vous souvenez qu'elle intervient en Matthieu 11 et en Luc 7. Mais justement, de nouveau, le contexte était intéressant chaque fois. Ce qui précède, chaque fois, c'est la question des disciples de Jean-Baptiste et la réponse de Jésus. disciples, es-tu celui à lui dire à Jean-Baptiste ce que vous voyez et entendez? Et puis il interroge, et qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Et il insiste sur la figure du Baptiste et il termine en disant, mais à la prédication du Baptiste, les publicains, les pécheurs se sont convertis et pas vous. Donc chaque fois, c'est le contexte antécédent, c'est l'exemple de conversion des prostituées et des publicains à la prédication du Baptiste. Et puis là-dessus vient l'image des enfants sur les places. Alors ce qui suit est un peu différent chez Matthieu et chez Luc. Ce qui précède était la même chose, mais ce qui suit, c'est chez Matthieu l'invective aux villes qui ne se sont pas converties. Et ça, c'est un enchaînement qui lui est propre. Donc, ça se termine, l'histoire des enfants sur les places et son application en Matthieu au chapitre 11 au verset 19. Vint le Fils de l'homme mangeant et buvant, on a dit, voici un mon bouton ivrogne, ami des publicains et des pécheurs. Alors que vint Jean-Baptiste, on ne s'est pas frappé la poitrine, en disant, il a un démon. Et ça se terminait, et la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Et les œuvres, ce qu'on remonte au début, c'est, dites ce que vous voyez, il est en train de guérir les boiteux, les lépreux, les surmulaires, à lever des morts. Et là-dessus, alors il commença à insulter les villes où étaient arrivés la plupart de ses gestes de puissance. C'est ça, ses œuvres, qui le justifient dans sa sagesse. Ses gestes de puissance, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Et là, on insiste. Donc, ce qui suit enchaîne sur le thème de cet appel à la conversion, dont publicains et pécheurs ont montré l'exemple à l'appel de Jean-Baptiste. Tandis que chez Luc, ce qui suit, je vous l'ai signalé la fois passée, c'est la scène qui lui est propre, de la pécheresse chez Simon le pharisien. Voilà un exemple in situ, direct, d'une pécheresse, mais qui entend, qui pressent l'appel à la conversion et ne craint pas d'entrer dans la maison, alors que le pharisien, tel le reproche que Jésus leur faisait dans l'histoire, de ne s'être pas converti, le pharisien commence simplement par la juger. Qui est cette femme, qui est cet homme, s'il savait qu'il le touche, etc. Vous voyez que le contexte résonne avec la perspective de la parabole. Dernière parabole que nous avions parcourue, c'était la parabole des deux fils. Justement, celui qui répond à la volonté du père, mais ne le fait pas, et l'autre qui ne répond pas, mais au contraire, se reprend et se convertit. Et lequel a fait la volonté du Père, et finalement, c'est celui qui était pécheur au départ, mais qui plus tard, se reprenant, a fait cette volonté. Alors, je vous invite à prendre la page 19, parce que je terminais par là, la fois passée. Et je vous ai remis, j'avais insisté en finale, sur l'importance de ce plus tard. C'est un petit adverbe dans le grec, usteron. Et de nouveau, on le trouve cette fois chez Matthieu. Ça lui est typique. Alors, justement, il intervient dans ce passage. Donc, sur la page 19, je vous ai remis les deux plus tard qui interviennent dans ce passage que je viens d'évoquer, cette parabole des deux fils. Donc, celui qui dit d'abord, répondant, il dit « je ne veux pas », or plus tard, se repentant, il s'éloigna vers la vigne, il fuit la volonté du Père. Et puis, j'ai mis trois petits points, je passe au verset 32. Hein. La conclusion que Jésus en tire, Jean est venu auprès de vous, vous n'avez pas eu foi en lui, les publicains et les prostituées ont eu foi, et vous, même en voyant cela, vous ne vous êtes pas repenti plus tard. Donc il y a un plus tard possible de conversion pour celui qui a d'abord dit non. Et Jésus appelle à intégrer ce plus tard, il n'est pas encore trop tard. Suit alors chez Matthieu la parabole des vignerons homicides. Le maître de la vigne, pour recueillir les fruits, envoie ses serviteurs, etc. De nouveau, il envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, leur firent de même. Or, plus tard, c'est un peu le dernier plus tard, hein, de la dernière chance. Plus tard, il leur envoya son fils en disant, « Respecteront mon fils. » C'est le plus tard ultime, celui de l'envoi du fils. Alors, plus loin chez Matthieu, on va avoir la parabole, de nouveau, qui n'est que chez lui, des vierges sages et des vierges folles. Alors, Voilà que, surprise au milieu de la nuit, les vierges insensées n'avaient pas pris d'huile. Comme elles s'éloignaient pour en acheter, voilà, vint l'époux. Et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui vers les noces et la porte fut fermée. Or, plus tard, viennent aussi le reste des vierges en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Répondant, il dit, « En vérité, je ne vous sais pas. Veillez donc, parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Cette fois-là, Jésus met en scène le fait qu'il y a un moment où c'est trop tard. La porte est fermée. Donc, il s'agit de faire sa provision d'amour, vigilant, avant que la porte soit fermée. Et enfin, une dernière occurrence, qui n'est pas à mettre sur le même pied, mais qui est quand même intéressante, c'est dans le récit de la Passion. Là, on est au chapitre 26, j'ai oublié de mettre le numéro du chapitre. Chapitre 26, verset 59, 60, 61, c'est le moment quand même décisif du faux témoignage contre Jésus. Les grands prêtres de Sanhédrin cherchaient un faux témoignage en vue de le mettre à mort, ils n'en trouvent pas, bien que de nombreux faux témoins soient venus auprès d'eux. Plus tard, deux témoins venant auprès d'eux dire « Celui-ci a déclaré, je peux détruire le sanctuaire de Dieu et en trois jours le reconstruire. » Là, c'est dans la bouche, non pas de Jésus ou d'un narrateur, mais dans la bouche du narrateur. Là, c'est un plus tard, non pas propice, mais tout à fait destructeur, évidemment. En contraste, les autres plus tard étaient des opportunités pour entrer dans le salut. Celui-ci, c'est un plus tard d'endurcissement. On ne trouve pas d'abord de faux témoins, mais plus tard, on finit par en trouver. Quoi. Et c'est sur ce faux témoignage, quand même, que Jésus va être condamné. Voilà, pour une reprise un peu longue de ce qu'on a vu la fois passée, mais pour que vous voyez des perspectives se dégager, l'importance de faire des choix en se déterminant non seulement à comprendre la parole entendue, mais à la faire. Et ce faire, c'est faire la volonté du Père. Et la volonté du Père, c'est que aucun des petits ne soit perdu. Alors nous allons voir, nous allons changer un peu d'univers, nous avons fait beaucoup de paraboles enfin jusqu'ici, en Matthieu et puis une de Marc, on va passer à Saint-Luc. Et je vous propose, je ne sais pas si on aura fini aujourd'hui, mais d'aborder l'ensemble de trois paraboles qui se tiennent et qui insistent sur la joie pour le pécheur qui se convertit justement et qui est retrouvé. C'est le texte de ces trois paraboles que vous avez sur les pages 20 et 21. Pour être précis, je l'ai repris dans cette version littérale, si vous voulez, du père Jean Radermakers, que j'avais repris, c'est disposé graphiquement pour qu'on voit aussi la rigueur un peu du phrasé de Luc. Alors, je vous invite un instant à reprendre la page 2 de votre dossier, si vous l'avez sous les yeux. Si on cherche les trois paraboles qui se trouvent enchaînées au chapitre 15 de Luc, on va trouver la première, la brebis perdue, dans la colonne de gauche, là, en ce qu'il a de commun avec Matthieu. Dans la colonne de gauche du tableau, vous voyez, à un moment donné, la brebis perdue, vers le milieu de la page. En Matthieu, elle est au chapitre 18, versets 12 à 14, et en Luc, elle intervient au chapitre 15, c'est les versets 4 à 7. Puis la suivante, ça va être la drachme perdue, là on va la trouver dans la partie de droite, le bien propre de Luc, ça veut dire qu'elle n'est que chez lui. En 15, les versets 8 à 10, donc c'est la suite, hein. Vous voyez, le brebis perdu jusqu'au verset 7, et puis à partir du verset 8, ils disent « La drachme perdue ». C'est bref, ça tient en trois versets. Et puis une troisième, après le verset 10 et le verset 11, c'est le fils perdu. 11 à 22. Le fils perdu et retrouvé, on pourrait presque dire les fils perdus, parce que l'aîné est un peu perdu aussi à sa manière, différente, mais ça commencera par un homme avec deux fils. Et Jésus va dire quelque chose, on se centre légitimement très fort sur le sort du plus jeune, mais il ne faut pas oublier ce qui se passe pour l'aîné aussi. Je ferme la parenthèse, mais donc vous avez pris conscience qu'il y a trois paraboles et qu'il n'y en a qu'une qui est commune à Matthieu et Luc, la première, ce qui veut dire que Luc a ajouté de son fonds propre la deuxième et la troisième et qu'il a enfilé les trois. Alors, la première à brebis perdue, elle intervient dans le contexte de l'enfilade des trois. On va le creuser. Tandis que cette même première, la brebis perdue, elle intervient chez Matthieu où ? Elle intervient donc dans son chapitre 18, vous voyez, au verset 12 à 14. Et c'est précisément ce passage que je vous ai rappelé. Là, on est dans le discours à la communauté de Matthieu, qui insiste sur l'attention apportée aux plus petits, à la capacité de pardonner, etc. Et justement, gardez-vous, chapitre Matthieu, verset 18, verset 10, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux, partout, regardent la face de mon Père qui est dans les cieux. Et puis, que vous semble-t-il un homme à 100 brebis, la parabole, la brebis perdue, et la conclusion, ainsi, il n'est pas de volonté devant votre Père qui est dans les cieux que se perde un seul de ses petits. Donc la parabole de la brebis perdue intervient, et cherchée et retrouvée, intervient chez Matthieu dans un contexte où on insiste sur la sollicitude du Père pour le moindre de ses petits. Fût-ce une seule brebis sur 100, elle a un prix inégalable, inaliénable à ses yeux. Ça, c'est le contexte où ça intervient chez Matthieu. Vous avez à la bas. Au bas de la page 19 que je vous avais donnée, je vous ai mis la comparaison synoptique qui va nous introduire à la différence entre les deux. Vous voyez, au bas de votre page 19, vous avez la version de Matthieu, l'énoncé de la parabole, et puis la conclusion, quelle est-elle chez Matthieu ? S'il lui arrive de la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit plus pour elle que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. D'accord. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est aux cieux que périsse un seul de ses petits. Ça, c'est chez Matthieu. Donc la conclusion qu'il en tire, et la pointe est là. Qu'il ne se perd pas une seule brebis. Chez Luc, il leur dit cette parabole, et puis on a la parabole, on va la relire. Étant venu à la maison, ça se termine en disant qu'il est tout joyeux. Étant venu à la maison, il convoque les amis et les voisins en leur disant « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Et puis la conclusion, prof de Matthieu, « Il y aura joie au ciel pour un seul pécheur, etc. » Mais vous voyez que Luc a inséré un petit passage où il est dit que celui qui a retrouvé sa brebis, non seulement est content, mais a le souci de partager sa joie, de donner à d'autres, de se réjouir. Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Ça va ? Alors maintenant, prenons le texte de Luc, justement, après avoir esquissé déjà un accent propre à Luc, comparativement à Matthieu, prenons le texte de Luc lui-même. Chez Luc, le contexte est souvent important. Enfin, de manière générale, le contexte des paraboles, et comment ça vous montrer, est important. Le rapport entre l'histoire racontée et ce qui intervient autour, comme parole ou comme événement. Alors, chez Luc, il y a plus explicitement que chez les autres le souci, déjà, de préciser explicitement ce contexte, de nous y rendre attentifs. Je prends donc le début de la page 20. Or, tous les publicains et les pécheurs étaient s'approchant de lui pour l'entendre, et les pharisiens et les scribes murmuraient entre eux en disant « Celui-ci accueille les pécheurs et mange avec eux. » Donc le contexte, c'est que des gens ne sont pas contents que les pécheurs soient retrouvés. Ils murmuraient. Murmure, c'est souvent en termes bibliques, des murmures de mécontentement. En grec, c'est « gogbudzen », d'assez belle sonorité, comme en français « murmurer »,« gogbudzen ». Mais, enfin, ceci, je vais faire une parenthèse, au désert, c'est le verbe « murmure du peuple contre Moïse ». Ils murmuraient entre eux, on va le vérifier dans le grec, mais je suis presque sûr que c'est ce verbe-là, « Celui-ci accueille les pécheurs et mange avec. » Chez Matthieu, vous vous souvenez, pour la vocation de Matthieu, on a déjà des réactions. Il va chez Lévi et certains ne sont pas contents. Il va chez Luc, il va aller chez Zachée, et il est allé manger, il est allé loger chez un pécheur. Donc c'est le contexte où les pharisiens et les scribes peinent justement à se réjouir de l'accueil que Jésus fait aux pécheurs. Il commence, il dit à leur adresse cette parabole en disant: quel homme d'entre vous ayant 100 brebis? Et puis on aura au verset 8, quelle femme ayant 10 drachmes? Luc aime bien les volets en diptyque et en parallèle. Il fait souvent valoir une figure masculine, une figure féminine. Et puis ici c'est aussi l'extérieur, une scène champêtre, les brebis dans le champ, et puis une scène domestique, une femme dans sa maison. Quel homme d'entre vous, il ne dit pas simplement quel homme en général, donc c'est bien à leur adresse, qui aurait 100 brebis, ayant perdu une seule d'entre elles, n'abandonne pas les 99 autres dans le désert et fait route, abandonne les 90 autres dans le désert, vers celle qui se trouve perdue jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée. Et l'ayant trouvée, il la met sur ses épaules et se réjouissant, insistant sur la joie. Étant venu à la maison, il convoque les amis et les voisins en leur disant: réjouissez-vous avec moi parce que je trouvais ma brebis, celle qui était perdue. Je vous le dis, il y aura joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes, lesquels n'ont pas besoin de conversion. Autrement dit, ceux qui sont capables de se réjouir, réjouissez-vous avec moi, eh bien, entre dans la joie qu'il y a au ciel pour le pécheur qui se convertit. Rien de moins que ça. Être capable de se réjouir de voir son frère ou sa sœur revenir vers Dieu, c'est entrer dans cette joie de Dieu. C'est une joie dans le ciel. Quelle femme ayant 10 drachmes, si elle perd une seule drachme, n'allume-t-elle pas une lampe et balaye la maison et cherche avec soin jusqu'au moment où elle l'a trouvée? Ayant trouvé, elle convoque les amis et les voisines, cette fois-ci, c'est bien normal, en disant: réjouissez-vous avec moi parce que je trouvais la drachme que j'avais perdue. Il ne dit pas quelle femme d'entre vous. Les femmes peuvent comprendre, mais il a comme auditoire les pharisiens et les scribes quand même. Donc, quelle femme, mais il leur fait valoir aussi cette belle image. Application, ainsi je vous le dis, arrive une joie en présence des anges de Dieu. Pour un seul pécheur qui se convertit. Souvenez-vous qu'on a lu chez Matthieu, leurs anges dans les cieux se réjouissent pour les petits. Arrive une joie en présence des anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Par rapport à ce qui était dit dans l'image de l'homme, l'expression un peu différente, là il était dit les justes, lesquels n'ont pas besoin de conversion. Or, dans l'évangile de Luc, Jésus insiste souvent sur ceux qui croient, comme il dit à un moment donné, se justifier eux-mêmes, être justes par leur propre force. Dans l'image du pharisien et du publicain, on trouvera lequel rentrera justifié dans sa maison. Voilà pour les deux petites paraboles préliminaires. Or, il dit, je dis préliminaires parce qu'elles nous acclimate à un point d'assistance qui va jouer dans la parabole du des fils prodigues. Un certain homme avait deux fils. Maintenant, est-ce qu'on va parler des deux ? Voyez aussi la progression numérique. Vous l'avez, des progressions, des clins numériques. Une brebis sur 100, pour dire, ben, c'est pas encore trop grave. Et pourtant, déjà pour une brebis sur 100, on se met en paix. Une drachme sur 10, c'est déjà un peu plus sérieux. Et on se met en paix. Mais alors, un fils sur 2, ça, c'est précieux. Encore plus. C'est plus simplement un bien matériel, une brebis ou une drachme, c'est un fils. Donc, une brebis sur 100, une drachme sur 10, un fils sur 2, et en lisant, on va comprendre presque deux fils sur 2. Deux sont perdus. Un homme avait deux fils. Le plus jeune d'entre eux dit au père, père, donne-moi la part me revenant sur ta fortune. Celui-ci leur répartit ses ressources et après peu de jours, ayant assemblé tout son avoir, le plus jeune fils partit en voyage vers un pays lointain et là il éparpilla sa fortune, vivant en prodigue. Or, comme il lui avait tout dépensé, arriva une forte famine dans ce pays-là et lui commença à être dans le besoin et ayant fait route, il s'attacha au service de l'un des citoyens de ce pays-là. Et il le manda dans ses champs pour faire paître des porcs et désirait se rassasier de caroube que mangeaient les porcs et personne ne lui en donnait. On voit bien les progressions narratives. Hein? Le point de départ, la scène de départ, le départ du fils. Et puis l'exil du fils. C'était la deuxième scène, versets 14 à 16. Troisième scène, on entre dans son intériorité. Étant venu en lui-même, il déclara « Combien de salariés de mon père sont débordés de pain. Or moi, ici, je meurs, je me perds de famine. M'étant dressé, je ferai route auprès de mon père. » On a dit qu'il est parti en faisant route là, mais il prend la route inverse du retour. Dans son intention, « Je ferai route auprès de mon père. » Hein? « Je lui dirai, Père, je péchais vers le ciel. » Il a déjà rencontré le ciel. Il y a de la joie dans le ciel. Donc il mesure que ce n'est pas simplement contre son père, c'est contre le ciel. Je péchais vers le ciel et en présence de toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Fais-moi comme l'un de tes salariés. Ta conversion, le début de conversion intérieure. La mise en route et s'étant dressé, il vint près de son propre père, et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Un verbe important, littéralement être pris aux entrailles, splankitsomai, et c'est le verbe qui a été déjà dit de Jésus, voyant les foules en détresse. C'est ému de compassion. Ça sera un verbe qu'on va rencontrer dans le Bon Samaritain. À un moment donné, il est pris de pitié, ému de compassion. Il fut ému de compassion, ayant couru, il tomba à son cou et l'embrassa. Or le fils lui dit, « Père, je péchais vers le ciel et en présence de toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Donc on l'a entendu dans l'intention du fils, on l'entend dans son discours direct. Il n'a pas peur de se répéter. Il ne dit pas simplement, il lui dit ce qu'il avait prévu. Non, il nous fait réentendre les paroles. Or, le père dit à l'adresse de ses serviteurs, « Vite, emportez dehors une robe la meilleure et habillez-le. Donnez-lui une bague à sa main et des sandales à ses pieds. Et apportez le veau engraissé, immolez-le, ayant mangé, faisons la fête. » C'est réjouir, ça. Faisons la fête. Parce que celui-ci, mon fils, était un mort et il revécut, il était un perdu et il fut retrouvé. La même formule que pour la brebis, la drachme, perdu, retrouvé, mais en plus ici, le binôme, mort et vivant. Donc le pardon est quelque chose fait revenir quand même de la mort. Il était mort et il revécut. Et ils commencèrent à faire la fête. Je continue pour achever d'abord une première lecture. On reviendra sur certains détails. Or, son fils aîné était au champ. Et lorsque venant, il approcha de la maison, il entendit de la musique et des chœurs. Ayant après appelé auprès de lui un des enfants serviteurs, il s'informait de ce que serait ceci. Or, l'autre lui dit, « Ton frère est venu et ton père immola le veau engraissé, parce qu'il le recouvra un temps en bonne santé. » Or, il se mit en colère et ne voulait pas entrer. Or, son père, étant sorti, le conjurait. Ayant répondu, il dit au père, « Voici autant d'années que je suis à ton service. Jamais je ne passais outre à un commandement de toi, et jamais tu ne me donnas un chevreau afin que je fasse la fête avec mes amis. Or, quand ton fils vint, celui-ci, qui a dévoré tes ressources avec des prostituées, puis immola pour lui un veau, le veau engraissé. » Celui-ci lui dit, « Enfant, toi, tu es en tout temps avec moi, et tout ce qui est mien est tien. Or, il fallait faire la fête et se réjouir, parce que ton frère, celui-ci, était en mort et revécu, et a perdu, et il fut retrouvé. » Il fallait faire la fête. Il faut, dans l'évangile de Luc, dit quelque chose d'une nécessité inhérente au salut de Dieu, toujours. Zachée, aujourd'hui, il me faut demeurer chez toi. Aux disciples d'Emmaüs, ne fallait-il pas que le Christ souffrit pour entrer dans sa gloire? Aujourd'hui, demain, il faut montrer à Jérusalem, etc. Et de même ici, il fallait faire la fête. Donc, il est nécessaire au salut de Dieu que lorsque quelqu'un est perdu et retrouvé, on puisse partager la joie du Père. Il faut se réjouir. Alors, on va reprendre quelques détails du texte. Mais vous voyez bien que par rapport au contexte, les trois visent à inviter, à être capables de prendre part à la joie des retrouvailles. Et dans la parabole, c'est le fils aîné qui peine à faire cela. Autrement dit, le fils aîné représente ceux qui ont été mis en scène au début et qui s'indignent de ce que Jésus fait bon accueil aux pécheurs. Le fils aîné, c'est celui-là. C'est l'Israël fidèle qui a des mérites, parce que c'est vrai que lui, il est resté, il a travaillé, il a sans doute pâti du départ de son frère, il a eu double charge, donc il n'est pas réticent à la tâche. Mais l'esprit dans lequel il l'a fait se révèle au moment de sa réaction vis-à-vis de son frère plus jeune, tandis que le père espérait le retour du fils. L'aîné sans doute râlait parce qu'il avait pris sa part d'héritage, qu'il était parti, et puis lorsqu'il voit, qu'il constate que quand il revient, il a tout dépensé, pas content, hein. Ben, on comprend, il est parti, mais justement, Jésus met en scène, avec des accents forts, pour bien faire comprendre à ceux qui récriminent contre l'accueil qu'il fait aux pécheurs, et que aussi sont appelés à une fameuse conversion. Alors si on se rend attentif à certains détails du texte, la manière dont sont nommés les personnages. Le plus jeune, un homme, c'est d'abord un homme. Le plus jeune dit « Au Père ». Père, donne-moi. Donc, on voit bien que d'emblée, dans les propos, dans l'échange, il y a cette perspective vraiment d'une relation filiale. Je reconnais la paternité. Père, donne-moi la part qui me revient. Mais, on sait bien que demander d'avance sa part d'héritage, c'est comme presque anticiper la mort du père. Hein. Donc, c'est quand même pas très, très élégant. On prend tout et il s'en va. mais il n'a pas perdu la conscience de la paternité. Combien de salariés de mon père, au verset 17 du pain. Et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel. Son père le vit, fut ému de compassion et en courut. Donc le père fait la démarche de courir à sa rencontre. Alors dans le cas du fils aîné, il y a moins de démarches de courir, mais en attendant, le père sort quand même sur le pas de la porte, l'autre ne veut pas rentrer, et c'est le père qui sort de la maison pour dialoguer avec lui. Donc le père est toujours celui aussi qui fait le premier pas, enfin en tout cas qui vient à notre rencontre. Alors tantôt on fait de notre part le chemin, tantôt on est bloqué, il faut que la sollicitation du Père nous convertisse. Son fils aîné, au verset 27, le serviteur répond, ton frère est venu, ton père immola le veau gras. Et dans la réponse, au verset 30, que répond l'aîné à son père? Quand ton fils revint. C'est ton fils, c'est pas mon frère, vous entendez. Il ne dit pas quand mon frère revint. Le serviteur lui a dit ton frère est revenu, ton père. Et lui répond simplement quand ton fils revint, celui-là. Et le père a bien entendu. Au verset 32, qu'est-ce qu'il va dire? Il fallait faire la fête et se réjouir. Parce que. Il ne dit pas simplement, il ne dit pas mon fils même, il dit ton frère. Ton frère, celui-ci, il était mort et il a revécu. Il était perdu et il est retrouvé. Alors bien sûr, le binôme, mourir, puis revivre, annonce quelque chose, bien sûr, de la vivification d'un mystère pascal, de Jésus. Ici, c'est pour dire le poids des mots, ici. Bien sûr, ici, ce n'est pas le propos, mais quand même, si Jésus est mort et ressuscité, c'est pour que les pécheurs morts spirituellement revivent en lui. Voyez un peu le mouvement et comment les trois ont été intentionnellement d'abord créés pour deux d'entre elles, et puis groupés par Luc, et que le chapeau initial donne déjà une clé de lecture du contexte. C'est pour toucher le cœur de ceux qui ne savent pas se réjouir de la conversion des pécheurs manifestée par Jésus. Alors, évidemment, la parabole fait un pas de plus, si je puis dire, au sens où Jésus fait comprendre que la miséricorde qu'il manifeste, c'est la transmission de la miséricorde du cœur du Père lui-même. Quand Jésus fait bon accueil aux pécheurs, prostitués, c'est parce que, en amont, il veut faire la volonté du Père, qu'il ne veut pas qu'aucun de ses petits se perde. Et d'où, dans la troisième parabole, une image de celui qui octroie le pardon comme étant vraiment la figure paternelle. Le Fils incarné nous dit la miséricorde du Père. Et nous obtient, si je puis dire, dans le don total de lui-même. Alors je termine, il reste 5 minutes, en soulignant le fait que, voyez bien que dans cette dernière parabole, on a une histoire où il y a trois personnages. Il y a le père, puis d'abord un homme avec deux fils, et les deux fils. Donc une triade de personnages. Et ce que le père fait au bénéfice du pécheur, du fautif, le plus jeune, il voudrait bien que le troisième personnage, le deuxième fils, partage sa joie et soit capable de se réjouir. Or ça, c'est un triangle qui intervient souvent dans l'évangile de Luc. Vous pourrez aller voir, je vous en donne la substance en quelques minutes, un article que j'ai écrit autrefois dans la NRT qui s'appelle « Le tiers inclus ». Vous cliquez sur le site Nouvelle Revue Théologique et vous trouverez en cherchant « Le tiers inclus ». C'est-à-dire qu'il y a de nombreuses scènes ou situations où il y a trois personnages et où Jésus, si je puis dire, fait d'une pierre deux coups. Il agit au bénéfice, par une guérison, par un pardon, d'un premier interlocuteur qu'il a, et en même temps, il essaye d'aider les témoins qui ont du mal à se réjouir, ou qui murmurent, qui rouspètent, à entrer dans la perspective. C'est le tiers personnage, le troisième personnage. J'ai intitulé cet article en référence à... En logique, on parle du tiers exclu, moi je dis le tiers inclus, ça joue chez Saint-Luc. Je prends d'abord un exemple chez Matthieu, c'est plus rare, mais chez Saint-Luc c'est assez typique. Chez Matthieu, vous vous souvenez de la parabole des vignerons, des ouvriers d'Alzheimer. La difficulté des premiers, c'est quand même de dire, nous avons porté le poids du jour de la chaleur, et voilà que à ce dernier venu, le fils aîné, il a porté le poids du jour, des années, de la chaleur, et celui qui revient sur le tard, il dit, bon, ça c'est un exemple chez Matthieu. Je prends quelques exemples de mémoire chez Saint-Luc, Zachée, je ne sais pas, il accueille avec joie, la joie de la conversion, c'est la joie, avec joie, et puis les autres qui rouspètent. Et Jésus fait comprendre, ben, celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Il fallait aller demeurer sans toi. Donc il les aide à la foule qui, au départ, Zachée est qualifié simplement, c'était un publicain, un pêcheur, il était riche et il était petit de taille. Et à la fin de la parabole, ça va être, celui-ci est un fils d'Abraham. Voilà un exemple où le tiers en question, c'est la foule qui respecte. Le pharisien et le publicain. Deux hommes montèrent au temple. Il y en a un qui se bat la poitrine, qui fait conversion. Le publicain en se tenant modestement dans le fond. Et le pharisien en haut, qu'est-ce qu'il commence par dire ? Je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres. Je donne la dîme, etc. Sous-entendu à la différence de ce bourreur pour rien des publicains qui l'ont fait. Donc le troisième personnage, et Jésus, de nouveau dans le contexte, dit intentionnellement cette parabole pour convertir les pharisiens qui croient par eux-mêmes être des justes et qui méprisent les publicains. Un autre exemple. Plus soft, c'est chez Marthe et Marie. Il y en a deux. Marie se tient au pied du Seigneur, elle écoute sa parole. Et Marthe, elle a quand même un peu de mal à se réjouir de ce que Marie puisse être dégagée, être toute à l'écoute du Seigneur. Peut-être qu'il fallait rendre service, mais avec un certain cœur plus pacifié. Marthe, tu t'inquiètes pour une chose. Et elle a choisi la meilleure part. Autrement dit, montre-toi capable aussi de me recevoir. Pas simplement recevoir quelqu'un, c'est pas simplement le recevoir matériellement, un bon repas, ça fait, mais le cœur doit y être pour signifier on ne fait pas simplement en râlant parce que l'autre ne veut pas, mais tout le cœur y est. Et voilà, si c'est son travail à elle à ce moment-là, Jésus lui demande, ben, réjouis-toi parce que Marie... à ce moment-là, puisse être tout entière à l'écoute de la parole. Voilà. Il y a encore d'autres exemples, qui ne reviennent pas pour le moment. Mais donc, vous pouvez aller voir ce petit article, le tiers exclu, et qui est la perspective quand même marquée dès le début, le tiers inclus, chez Saint-Luc. La perspective marquée dès le début de l'évangile. Jésus fait son discours inaugural à Nazareth. Et il dit, aujourd'hui cette parole s'est accomplie à vos oreilles, on s'étend des paroles de grâce qui sortent de sa bouche, etc. Puis à un moment donné, je prends le texte au chapitre 4 de Saint-Luc. Tous lui rendaient témoignage, s'étonnaient des paroles de grâce qui s'en allaient de sa bouche. Jésus vient de commenter la parole d'Isaïe quand même. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a donné l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, ça vient en tête, etc. Libérer les captifs. Alors tous lui rendent témoignage et citant des paroles de la grâce qui sortaient de sa bouche. Il disait, n'est-il pas fils de Joseph? Il dit à leur adresse, et là tout d'un coup, Jésus a l'air de se montrer de manière surprenante, agressive. Certainement, vous me direz, cette parabole, médecin, sois pour toi-même, ce que nous avons entendu des choses arrivées à Capharnaüm, fais-les ici dans ta patrie. Donc Jésus sent un peu leur sentiment, finalement, ils sont un peu jaloux de ce que Jésus a déjà fait des gestes de guérison à Capharnaüm et il faudrait qu'il le fasse chez eux aussi. Autrement dit, il voudrait le garder un peu pour lui. Alors Jésus, qui a bien compris qu'il doit les inciter à l'élargissement, justement, plutôt que de râler contre ceux de Capharnaüm et se réjouir de ce qu'eux ont déjà entendu la parole, il leur dit en vérité, aucun prophète n'est accueilli dans sa patrie. En vérité, il y avait de nombreuses veuves dans les jours d'Élie en Israël, de nombreux lépreux, et c'est un contexte de ces histoires dans l'Ancien Testament où le peuple d'Israël résistait à la parole de Dieu, tandis que des étrangers se trouvaient capables d'être réceptifs et accueillants. Eh bien, Jésus insiste, de nombreux prophètes, et aucun d'eux ne fut purifié, sinon Naaman qui était un Syrien. Alors tout d'un coup, les sentiments changent. Ils furent remplis de fureur dans la synagogue, et le jetèrent dehors et veulent le jeter en bas. Autrement dit, c'est une scène inaugurale où Jésus commence à annoncer qu'il va aller vers les pauvres, etc., qu'il va aller un peu aux marges, et ceux de Nazareth, en entendant qu'il veut aller aux marges, n'en veulent pas à peine à s'en réjouir. Et ça, on va voir dans tout l'évangile de Luc, chaque fois que Jésus est attentif aux petits, aux pauvres, il va y avoir des résistances. Et donc cette parabole, quand même, ce qui est dit du fils aîné est aussi important que ce qui est dit pour le fils plus jeune, dans cette parabole du sage. Mais le propos essentiel, c'était donc d'esquisser la cohérence du chapitre 15, ça va, et de vous montrer quand même que ce qui est en jeu est une perspective importante dans l'évangile de Luc. Apprendre à se réjouir du salut qui advient et qui déborde ce à quoi on s'attendait, pas simplement les gens qui sont déjà assez fidèles et qui cherchent honnêtement la justice, mais aussi tous les pécheurs et qu'il faut pouvoir s'en réjouir.